bonjour à tous. Je voudrais prier avant de commencer. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu sais dans quel état nous venons chacun. On veut te demander d'ouvrir nos oreilles et puis de nous permettre d'entendre ce qui est bon à entendre, de laisser ce qui est bon à laisser. Seigneur, que tu puisses nous accompagner ce matin aussi. Amen.
Amen.
Quelqu'un a reconnu le morceau, l'interprète ?
YouTube.
Facile à reconnaître. C'est le groupe YouTube, effectivement, qui s'est inspiré de textes bibliques pour certains de ces morceaux. Sophie, on ne voit pas de... Merci. Ce morceau-là, que j'ai rapidement traduit à côté, en fait, c'est un morceau qui s'appelle 40, qui s'appelle 40, qui est inspiré directement par le psaume 40, qui est un des textes du jour proposé aujourd'hui, et donc je trouve intéressant de vous le faire entendre juste en introduction. Comme certains des autres textes du jour, c'est un texte qui est messianique, qui annonce l'arrivée du Christ et qui annonce la venue et le message de Christ sur terre. C'est un psaume qui est attribué au roi David dans la première partie du livre des psaumes. Il est à la fois action de grâce, c'est-à-dire reconnaissance, louange, ce qu'on a fait tout à l'heure. Il a à la fois appel au secours et prière imprécatoire, c'est-à-dire souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un. Il y en a beaucoup dans les psaumes, des comme ça. Il y a 18 versets. Les versets 14 à 18 sont repris intégralement dans le psaume 70. Le psaume 70, c'est les versets 14 à 18 de ici. Et puis, il est repris aussi, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il est repris aussi dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, qui place les mots du verset 9, ce que je désire est à l'oeil gravé au fond de mon cœur. Ces paroles-là, l'auteur de la lettre aux Hébreux les place dans la bouche même du Christ. Et c'est en ça que ce psaume est un psaume messianique. Je voudrais le lire. Au chef de cœur, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui disent « Ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. C'est un psaume qui parle d'une foi personnelle, qui dit l'intime du psalmiste dans sa relation avec Dieu. Le psalmiste s'adresse toujours à Dieu avec les jeux et les tues. Il emmène le lecteur, les chanteurs et les auditeurs de ce texte dans son vécu à lui. En fait, il va faciliter l'identification avec une bonne dose d'images poétiques. David avait sûrement en tête des situations de vie bien réelles, mais au lieu de dire « il s'est passé ça, 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 ça », il va utiliser le chant, il va utiliser des généralisations qui vont nous permettre à nous, lecteurs, auditeurs, chanteurs, de mettre nos propres expériences derrière ces mots à lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va poser un regard sur lui-même, et ce regard sur lui-même va toujours l'entraîner automatiquement dans le dialogue avec l'Éternel. Il y a une grande partie du psaume qui est consacrée à de la reconnaissance, de la louange. J'ai mis quelques versets en rouge ici, versets 4, 5, 6, 11, 12. Mais il fait plus que de la louange, il évoque aussi les difficultés rencontrées par le psalmiste. Début, au milieu, à la fin du psaume. Le passage, ici, j'ai pris une version où il a dit « il m'a retiré de la fosse de destruction », d'autres versions où « il m'a retiré du puits profond ». C'est une image littéraire hein, qui peut nous parler de quand notre vie est dans une impasse ou quand on se retrouve vraiment très très bas moralement, mais qui est aussi littéralement arrivée à d'autres personnages bibliques. On peut penser à Joseph, on peut penser à Jérémie, où Dieu les a retirés du puits. Et puis l'image de la boue, du fond de la boue ou de la boue, c'est une image qui me parle un peu beaucoup parce que ces derniers temps, il fait très moche, vous avez vu. Et quand je vais me promener, je me retrouve rapidement dans la campagne. Et puis quand il a plu et que le sol devient un peu meuble, un peu glissant, il y a des endroits où on est vite un peu déstabilisé. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on est déstabilisé, on cherche l'appui. On cherche le brin d'herbe, le caillou qui va nous remettre d'aplomb et qui va nous faire retrouver rapidement notre verticalité un peu rassurante. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie émotionnelle, c'est la même chose. Un petit passage glissant peut mener soit à une grande glissade, soit je peux essayer de me rappeler que, comme le psalmiste dit au verset 2, il a dit « Il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris » et au verset 3, « Il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas ». J'aime la traduction qui utilise le passé, c'est avant même que je sois dans la mouise totale, il a déjà prévu pour raffermir mes pas. Je trouve la structure émotionnelle de ce psaume vraiment impressionnante au niveau de ses variations. Il y a de l'espoir, il y a de la reconnaissance, il y a de la joie, il y a de l'émerveillement, il y a de la promesse d'obéissance, il y a de la proclamation de la fidélité de Dieu. Et puis il y a de l'accablement, de l'anxiété, du découragement, de l'appel à l'aide. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de l'appel au secours. Ces variations auxquelles le psalmiste nous invite à nous identifier me rappellent des problématiques liées à la santé mentale. Alors permettez-moi ce matin de faire un petit détour par ce thème qui me semble un peu abordé en Église. Ça demeure un thème de société important qui est présent dans les médias, qui est renforcé dans la culture du bien-être individuel qui peut nous environner. C'est une thématique importante de la jeunesse. Des études sont menées jusque dans les écoles. D'ailleurs, ma classe a fait partie d'une de ces études au printemps dernier. La société, le gouvernement, les chercheurs s'intéressent, voire s'inquiètent des phénomènes qui touchent à ce thème. Alors je me suis dit que peut-être que nous, en Église, ou en tant qu'Église, on a aussi des choses à dire à ce sujet. Alors, je voudrais peut-être rappeler juste quelques bases. La santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé. Elle représente bien plus que juste l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. D'après l'Organisation mondiale de la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Il y a trois dimensions dans la santé mentale. Il y a la santé mentale positive, qui recouvre le bien-être, l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques qu'on a et les capacités d'agir de l'individu dans la société, dans ses rôles sociaux. Une deuxième étape, c'est la détresse psychologique réactionnelle. Elle est induite par une tempête émotionnelle, on en a parlé encore tout à l'heure, par des situations éprouvantes, des difficultés existentielles, un deuil, un échec relationnel, un échec scolaire. La détresse psychologique réactionnelle n'est pas forcément révélatrice d'un trouble mental, mais les symptômes, qui sont relativement communs et qu'on expérimente tous à certains moments, sont des troubles de l'ordre des troubles anxieux ou dépressifs qui apparaissent généralement dans un contexte d'accident de la vie ou d'événements stressants et qui peuvent être transitoires. Dans la majorité des cas, les personnes en détresse psychologique ne nécessitent pas de soins spécialisés. Mais mal repérée ou mal accompagnée, la détresse psychologique peut faire basculer la personne dans une maladie ou multiplier les difficultés sociales. Quand elle est temporaire et qu'elle fait suite à un événement stressant, elle est considérée comme une réaction adaptative normale. Mais quand elle devient plus intense et qu'elle perdure, elle peut constituer l'indicateur d'un trouble psychique. Et c'est la troisième composante, c'est les troubles psychiques et psychiatriques de durée variable, qui peuvent être plus ou moins sévères, plus ou moins handicapants, qui se réfèrent à des classifications diagnostiques au niveau médical et qui renvoient à des critères, à des actions thérapeutiques ciblées et qui relèvent d'une prise en charge médicale. Les conséquences liées à ces affections psychiatriques peuvent être majeures, les handicaps, les décès prématurés, la discrimination, l'exclusion. Ce matin, je voudrais vraiment me limiter au premier champ de la santé mentale, et peut-être juste à la limite entre santé mentale et détresse psychologique réactionnelle. Et je voudrais vous encourager, vraiment, en cas de difficulté importante, à chercher de l'aide et d'un suivi auprès d'un professionnel. C'est peut-être difficile à entendre dans le cadre de l'Église, mais je crois vraiment que justement l'Église et ses membres, ce n'est pas la seule et unique solution idéale pour accompagner, seule en tout cas, les cas complexes qui relèvent de détresse ou de pathologie psychique ou psychiatrique. Alors il n'est pas fait état de santé mentale en tant qu'expression dans les différentes traductions de la Bible que j'ai pu interroger. Mais il me semble que lorsque le Père Créateur nous invite à prendre soin de la création, de nous aimer nous-mêmes, il me semble assez évident que Dieu nous invite aussi à prendre soin de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle. Les exemples d'individus en crise, de l'action de Dieu restauratrice par rapport à ces crises, fourmillent dans les pages de la Bible. Pensez à David qui a écrit le psaume 40. Le récit de sa vie est plein de rebonds, d'actions, de réactions qui sont suivies de conséquences. Heureuse, malheureuse, il combat Goliath en faisant confiance à Dieu, il entre à la cour du roi. Le roi le voit comme un danger, David s'enfuit, mène une vie dehors la loi, il est pourchassé par les autorités, et c'est que le début. Comment est-ce qu'il va gérer ces événements qui chamboulent son quotidien? Les sauts constants entre les moments de louange, de gratitude et de désespoir ou d'imprécation dans les psaumes nous montrent combien son état émotionnel était intense et était tellement important pour lui qu'il a traduit ces moments dans des chants. Grosse partie des psaumes dans la Bible. La santé mentale, c'est un concept qui a été développé au siècle dernier, à la suite de l'apparition des neurosciences et de l'étude du cerveau. D'autres pays avant nous s'y sont fortement intéressés avant la France, notamment en Amérique du Nord. Alors je pose la question, à nous qui avons la chance de connaître Dieu, est-ce que c'est vraiment utile de se poser la question de la santé mentale quand on est en église, quand on est face à Dieu? Est-ce que c'est pas un peu à contre-emploi? Est-ce que c'est pas un peu plus facile de se dire, non mais je suis chrétien, Dieu me donne sa paix et sa joie, du coup c'est bon, ma santé mentale elle est ok, il devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Et puis si j'ai un souci, surtout je vais le taire. On sait jamais. Des fois que j'aurais un peu trop péché, si j'en parle, on me met le doigt dessus. Non, le témoignage de la vie d'un chrétien, ça doit laisser une belle trace pour pouvoir parler des montées de Dieu. Franchement, je crois que c'est une dérivation de la théologie de la prospérité de croire que, ou de faire croire qu'en tant que chrétien, tout va forcément bien tout le temps. Au niveau de la gestion de notre stress, de nos émotions et de notre façon de vivre les choses. Nous ne sommes pas équipés de plumes de canard imperméables qui nous permettent de vivre les événements de nos vies de façon détachée. Et nous vivons tous des moments plus ou moins faciles, plus ou moins tristes, ou qui remettent en question notre relation avec Dieu. Non, être chrétien, c'est pas voler dans une bulle au-dessus de toute contingence de notre vie d'être humain. Alors je pense que ça vaut le coup, en Église aussi, de se poser des questions sur notre santé mentale. Parce que Dieu nous a créés avec nos cerveaux, nos émotions, nos façons de réagir quand le sol devient boueux, glissant, et qu'il nous demande de prendre soin en tant que créateur de cette partie-là de notre santé aussi. Alors je vous propose quelques pistes. Alors ça aura la forme d'une liste, vous ne le prenez pas comme une checklist, hein, c'est un peu en vrac, il n'y a pas de... À vous de prendre ce qui va pour vous en ce moment. Les premières pistes sont très très concrètes d'abord. Et je vais pas commencer à essayer de les justifier par des petits versets, parce qu'on pourrait essayer de trouver des petits versets qui pourraient justifier, mais je compte un peu sur votre sens pratique, je compte un peu sur votre connaissance, votre confiance, votre compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il veut pour nous, et puis je suis ouverte à la discussion par ailleurs si ça vous embête. Ok, les premières pistes pour prendre soin de sa santé mentale, c'est évidemment faire au moins un peu d'exercice physique. Ça fait partie des premières recommandations des médecins, des chercheurs. C'est aussi avoir une bonne hydratation. Je parle de l'eau. Du thé, de la tisane si vous voulez, de l'eau. Je parle du repos en quantité et en qualité suffisante. Je pourrais parler ici des différents types de repos qui existent. Le repos, c'est pas seulement le fait de dormir, même si c'est important bien sûr. J'ai des articles à disposition s'il faut. Et puis pour quelques autres remarques et quelques autres pistes sur la gestion de sa santé mentale, je voudrais revenir d'un peu plus près à mon psaume 40 et revenir sur quelques versets. Alors, c'est pas forcément dans un ordre du plus important ou plus, c'est vraiment prenez ce qu'il faut. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Je crois que c'est important, à certains moments, de se rendre compte qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont pas forcément bons pour nous, pour notre développement, que ce soit dans la famille, avec les amis, au travail, avec les patrons, les collègues, mais aussi parfois même à l'église. Donc je pense que c'est intéressant de se prémunir un petit peu, de se protéger, et puis de faire confiance à l'Éternel dans la suite de la gestion des relations. Des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Ouais, je crois que pour chacun de nous, hein, elles sont nombreuses nos fautes. Peu importe nos transgressions, peu importe notre vie de foi, franchement, dire le contraire, ce serait nier l'évidence de notre humanité. J'admire vraiment ici le psalmiste qui reconnaît son état, qui discerne, qui le met en mots. Je crois que c'est important de dire ce qui ne va pas ou au moins, parce que parfois c'est un peu compliqué de dire ce qui ne va pas, au moins que ça ne va pas. L'interlocuteur, je le laisse à votre choix. Puis de l'autre côté de la balance, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. La gratitude. C'est aussi quelque chose de très important qui est discerné vraiment aussi par les chercheurs et dans les discours actuels. Pratiquer la gratitude, et nous on a de la chance de savoir à qui on l'offre notre gratitude. C'est vraiment des règles reconnues par les chercheurs et les sociologues qui s'intéressent à la santé mentale positive. J'aimerais reprendre un verset d'un psaume qui va un petit peu plus loin et qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Important. Prendre le temps de compter ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Autre extrait d'un psaume un peu plus long. Ça demeure une demande de la part de Dieu, cette gratitude qu'on lui doit. Reconnaître les œuvres de Dieu pour soi, c'est un vrai bon conseil. C'est pas juste une prière ritualisée. C'est mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est parfois un peu dur à dire quand les nuages s'amoncellent qu'une mauvaise nouvelle survient. Dans ce cas, on peut peut-être dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. L'idée, c'est de se rappeler que c'est la disposition du cœur qui compte pour Dieu. En effet, les sacrifices prescrits par le Lévitique n'étaient pas, comme c'est le cas dans d'autres systèmes religieux, juste un moyen de faire pression sur Dieu pour obtenir un bienfait en échange. Ils consistaient plutôt dans une expression de reconnaissance envers Dieu, une humble demande de pardon pour des fautes involontaires. Il y avait des exigences formelles, bien sûr, mais elles devaient forcément être accompagnées d'humilité, de respect, d'obéissance sincère. C'est de ça dont le psaume 40 parle, d'une bonne conduite, de la volonté de donner le meilleur à Dieu. La santé mentale spirituelle, c'est pas se forcer à entrer dans un espèce de légalisme qui n'a plus de sens. Je crois que c'est rester honnête par rapport à où on en est à l'instant T dans sa relation avec Dieu et pouvoir venir humblement à lui avec nous-mêmes. Pas de triche. Il s'est penché vers moi et il a écouté mes cris. Je crois que lui parler, c'est aussi important, sachant qu'il nous écoute et qu'on peut être sûr de ça, qu'il est prêt à nous entendre. C'est l'idée de prier. Alors, je pourrais dire tout simplement prier davantage, quoi. Prier, c'est pas une sorte d'outil magique pour faire que nos problèmes soient traités par une puissance supérieure. La promesse, c'est que toute personne aux prises avec des pensées angoissantes peut se reposer dans l'assurance que Dieu est à l'œuvre, en chuchotant, au milieu des fortes attentes, au milieu des tempêtes. La promesse de Jésus, c'était que même lorsque nous nous frayons un chemin dans la prière, Dieu, en tant que Père aimant, nous écoute et nous connaît dans nos pensées les plus intimes. Même à l'intérieur de nous-mêmes, on a souvent du mal à nous comprendre. Beaucoup d'entre nous passent par des phases où le conseil « prier davantage » ne correspond pas au vécu. En tant qu'Église, au lieu de dire « prier davantage », essayons de dire plutôt « attendons, écoutons Dieu ensemble ». Cette approche affirme qu'il va être normal de ne pas entendre Dieu clairement, et que dans ces moments de confusion, on peut être sûr que nous ne sommes pas seuls. Elle peut également permettre de discerner les nombreuses options médicales, qui, je le rappelle, sont en elles-mêmes un signe de la bienveillance de Dieu. Ta loi est gravée au fond de mon cœur. C'est l'idée de connaître qui est Dieu, d'approfondir notre relation avec lui, notamment au travers de la connaissance de sa parole. Je dis volontairement pas pour une bonne santé mentale, il faut lire plus la Bible. Dans le contexte d'une personne en difficulté ou en souffrance, présenter la Bible comme un espèce de manuel de guérison n'aurait vraiment pas de sens. On peut peut-être passer de lire plus la Bible à apprenons la Bible ensemble. Lorsque nous ralentissons pour passer du temps à apprendre ensemble, nous revenons à une manière commune d'entendre la Bible, c'est-à-dire en communauté. C'est un moyen essentiel de corriger les idées fausses qui nous font croire qu'il pourrait y avoir une solution rapide à travers une saison de douleur ou de confusion émotionnelle. Apprenons la Bible ensemble. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Un conseil qu'on peut entendre quand on dit « ça va pas », j'ai du mal à sortir la tête de l'eau, c'est « oui, mais t'es chrétien, soyez toujours joyeux mmh. ». J'aime votre réaction. L'idée ne serait pas de dire « fais juste plus confiance à Dieu et sois plus dans la joie ». Et je pense, lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est dans des difficultés d'ordre de santé mentale ou qu'on est nous-mêmes dans un moment de souffrance, le « vas-y, sois dans la joie », c'est vraiment pas forcément la plus grande utilité. On est un peu accro à l'idée de nous présenter comme des personnes positives. Difficile de pouvoir assumer ou d'afficher un autre état d'esprit, parfois dans un milieu chrétien, sans s'entendre dire des paroles qui se veulent sans doute très réconfortantes de la part de notre interlocuteur, mais qui ne nous aident pas à trouver les clés pour avancer. Peut-être qu'en église, quand quelqu'un est confronté à des difficultés d'ordre de santé mentale, qu'il recherche de l'aide dans le cadre d'une relation d'aide ou d'une relation amicale, vraie, profonde, l'idée serait de s'arrêter ensemble et d'aider ensemble à trouver le petit endroit au milieu de la tempête où Jésus donne de la joie, donne de la paix. Ça sonnerait sans doute un tout petit peu plus juste que de dire simplement « soyez toujours joyeux ». Pour aller un peu plus loin, je vous propose quelques ressources, notamment un plan de lecture de 4-5 jours sur l'application YouVersion, sur l'application de la Bible, je pense que certains d'entre vous l'ont, qui parle de la santé mentale aussi. Je vous propose également deux émissions de podcast qui viennent de l'église de la Chapelle au Québec. Le thème, c'est le même que le plan de lecture. En fait, ils ont commencé par les podcasts et puis ils ont proposé le plan de lecture après. Des entretiens d'une heure avec des médecins, avec des sociologues, avec des pasteurs, avec des témoignages qui donnent plus d'idées précises sur ce que c'est la santé mentale. Et puis, je vous conseille juste un livre, pas forcément chrétien au départ, « L'enfant, la taupe, le renard et le cheval » de Charlie Maxis. Enfin, c'est juste très très agréable à lire et je peux laisser là un tout petit peu tout à l'heure si vous avez envie de regarder. Les dessins sont formidables et il y a quelques petites pépites aussi pour retrouver du sens. Alors pour conclure et puis ne pas éluder un des aspects essentiels du psaume de ce matin, j'aimerais encore évoquer l'importance que le psalmiste accorde au témoignage dans l'assemblée, à la nécessité du vécu au sein de l'Assemblée. Parce que l'auteur navigue de moi à nous aussi. Pour lui, il est vraiment important de dire ensemble ce qui est vécu. Qui est Dieu pour chacun, ce qu'il a fait et les bienfaits qu'on ne peut pas compter. Les bonnes nouvelles partagées, les discussions après le culte ou dans la semaine permettent de tisser ce lien entre nous, des bienfaits innombrables de Dieu. Je crois qu'on veut reconnaître et on veut célébrer, louer ensemble le Seigneur pour toutes ses bontés. Et au sein de ce psaume, David proclame les qualités de Dieu. J'en ai fait un petit bouquet issu du psaume sur cette diapo. Et je vous propose, pour terminer, si vous voulez, d'en choisir un, de le lire à voix haute, qu'on puisse dire ensemble proclamer ensemble qui est Dieu pour nous. On terminera là-dessus.
L'Éternel s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris.
Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel.
Que l'Éternel est grand. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas.
Tu es mon aide et mon libérateur.
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu.
Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi.
Tu ne demandes pas. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché.
Tu es mon aide et mon libérateur.
Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée.